Gloire à Dieu, nous commençons, nous continuons notre étude biblique dans la série Béréen explorateur. Nous lisons toute la Bible avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la pensée de Dieu. Il ne suffit pas de lire, mais il faut aussi recevoir par Dieu sa pensée. Et nous en sommes au psaume 136.
Psaume 136. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde durera toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde durera toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde durera toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde durera toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde durera toujours, et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde durera toujours, et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde durera toujours, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde durera toujours, celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde durera toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours.
Amen, amen. La miséricorde, c'est la bonté, c'est la bienveillance. C'est le fait que Dieu se soucie de nous rendre heureux, de rendre les humains, de rendre tout le monde heureux. C'est ça la miséricorde. Et ça veut dire qu'il ne pense qu'au bien des gens et vient à leur secours. Donc on pourrait donner quelques mots qui vont ensemble avec la miséricorde, il y a la bienveillance, il y a la bonté, il y a l'amour. Parce que on peut se tromper sur Dieu, comme dans beaucoup de religions, en le cantonnant dans sa puissance, dans sa grandeur. Mais ce texte nous dit, attention, la miséricorde de Dieu est une qualité exceptionnelle que tout seul il a, en totalité, parce que bon, nous on peut faire parfois des actes de miséricorde, on peut avoir des pensées de miséricorde, mais la miséricorde de Dieu, selon ce psaume, elle dure à toujours. Nous on peut avoir des temps, mais pour lui, c'est tout le temps qu'il est dans la miséricorde. Et on nous donne une liste de choses qu'il accomplit, que ce soit dans la vie quotidienne, que ce soit en exploit, que ce soit en délivrance, que ce soit aussi en châtiment. Et on nous dit que tout ça a pour fondement sa miséricorde. Du coup, ça devrait nous pousser à le louer. Donc ça commence par le terme « louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours ». Et ça finit par « louer le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure toujours ». Donc on nous dit dans ce psaume que finalement tout ce qui se passe sur terre est le résultat de la miséricorde de Dieu. Que celui qui est malade, que celui qui souffre, mais que celui qui achète aussi une maison réalise que tout ça vient de la miséricorde de Dieu. Du coup, ça change beaucoup de choses. Donc, c'est des choses qui vont faire que celui qui souffre, au lieu qu'il soit dans l'abattement, il va louer Dieu. Il va dire, finalement, ce qui m'arrive est le fruit de la miséricorde de Dieu. Donc, forcément, c'est une bonne chose pour moi. Alors qu'à première vue, ça paraît difficile et mauvais. C'est ça la différence. Tout vient de sa miséricorde. Même les châtiments, même quand il frappe les Égyptiens, ça reste sa miséricorde. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et d'ailleurs, pour nous montrer vraiment que c'est tout est issu de la miséricorde de Dieu, on voit par exemple au verset 25, c'est écrit « Celui qui donne la nourriture à toute chair ». Donc les oiseaux, les plantes carnivores, même les plantes sont nourries par la miséricorde de Dieu. Les humains sont nourris par la miséricorde de Dieu. Donc c'est pour nous dire, mais c'est tous les domaines de la vie de l'univers qui fonctionnent par la miséricorde divine. C'est très important de réaliser ce terme-là, car sa miséricorde dure à toujours. Vous savez, il y a des sportifs qui manifestent une certaine miséricorde lorsqu'ils font des dons financiers. Mais vous pensez que quand, par exemple, ce boxeur-là donne un coup à l'autre boxeur, il y a la miséricorde? Non, il n'y a pas de miséricorde. Là, il veut finir l'autre. Ce n'est pas la miséricorde, ça. Mais le même boxeur, après le combat, peut donner un quart de ses gains à une œuvre de bienfaisance. Ça lui donne une apparence de miséricorde, d'être miséricordieux. Mais en réalité, sa miséricorde ne dure pas à toujours. Parce que pendant le combat de boxe, il frappe sans miséricorde. Pendant le match de football, il va tirer, il va dribbler sans miséricorde. Il ne va pas penser au fait qu'en marquant, il met le défenseur qui était sur lui en mauvaise posture par rapport à son équipe. Il y a des gens qu'on condamne comme étant la cause de la défaite d'une équipe parce que l'attaquant a été plus fort. Donc là, il n'y a plus de miséricorde de la part de l'attaquant, même si après tout ça, il peut faire des dons aux pauvres. En réalité, la miséricorde de ce joueur-là, de ce sportif, ne dure qu'un laps de temps. Mais là, il nous est dit que tout le temps, Dieu est dans la miséricorde. Et on nous exhorte donc par conséquent à le louer tout le temps, parce que être dans la miséricorde, c'est louable. Quand on voit quelqu'un faire preuve de miséricorde, tout le monde loue cette personne, dira vraiment, il a été sympa, ah vraiment, il a eu pitié, ah vraiment, il a aidé. Alors, on nous exhorte, dans ce cas, on nous dit, il faut louer Dieu à tout moment, parce que lui, à la différence des autres, a une miséricorde qui dure tout le temps. Tous les actes, ce qu'on appelle en français la providence, tous les actes de providence, donc la gestion de l'univers par Dieu d'une manière qui nous dépasse, hein, on sait que c'est lui qui gère, et bien, tous ces actes de providence, tous ces actes de gestion de l'univers sont des actes de providence. Il n'y a pas que la puissance dans l'affaire, il y a de miséricorde plutôt, il y a la miséricorde dans l'affaire. À chaque fois, il y a la volonté d'être bienveillant, d'aimer, il y a la bonté. Ce ne sont pas des actes dus tout simplement à la puissance. Quand un savant fait un calcul mathématique, il ne pense pas forcément à être bon envers qui que ce soit. Il cherche à résoudre un problème parce qu'il a une certaine formation et intelligence. Mais on nous dit dans ce texte que Dieu, lui, il fait tout dans un état de miséricorde envers son univers. C'est extraordinaire. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne fasse que par puissance pure. Tout ça est accompagné de miséricorde. Et donc on voit la liste, on voit les grands prodiges, c'est par sa miséricorde. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, il y a l'intelligence, il y a la toute-puissance, mais derrière tout ça, il y a la bonté, il y a la miséricorde. Il veut faire du bien. C'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire. Je ne crois pas que les gens qui s'habillent avec des vêtements chers, c'est par miséricorde. Mais là, on nous dit que Dieu, lui, il fait tout dans un esprit de miséricorde, dans la bienveillance, dans la bonté. Ah, il y a une question. D'accord, ok.
C'est une question dans le même sens de ce que tu viens de dire, mais juste comprendre quelque chose. Tu as dit, même quand Dieu a châtié les Égyptiens, c'est aussi sa miséricorde.
Oui, j'attends la question.
Oui, comment on peut comprendre cela?
Ah,
le fait que, comment, oui, c'est ça la question.
Comment on peut comprendre
le fait qu'il châtie les...
Oui, j'explique là.
Oui.
Voilà, donc ça veut dire que les Égyptiens ne pouvaient comprendre la grandeur de Dieu que par cela. Parce que Dieu, vous vous souvenez, il a utilisé des miracles moins douloureux pour eux, pour qu'ils comprennent qu'il est Dieu et qu'il libère son peuple. Et que peut-être aussi qu'ils en profitent. Savoir que on a le peuple de Dieu au milieu de nous, on peut en profiter. Ben, ils n'ont pas écouté. Donc, en quelque sorte, ils écoutent au moment où la douleur est... qu'ils ne pouvaient pas résorber. Voilà. Ils ne pouvaient pas, avec les autres miracles, ils trouvaient les moyens de s'en sortir. Là, ils ne pouvaient plus s'en sortir. Ils étaient obligés de reconnaître par ce châtiment-là que Dieu est grand, que Dieu est le véritable Dieu. Et ils ont même contribué à donner des richesses aux enfants d'Israël en partant. Donc, ils ont reconnu la toute-puissance de Dieu. Or, comme dit Jésus, la vie éternelle, c'est te connaître au Dieu. Voilà. Donc, ce châtiment-là a permis qu'ils reconnaissent que seul Dieu est grand. Donc, ça reste un acte de miséricorde parce que Dieu pouvait, s'il n'était pas miséricordieux, il pouvait rester caché et sauver quand même son peuple et que l'Égypte croit qu'elle est la plus forte. Mais Dieu finit par frapper de sorte que ça soit clair que c'est lui le plus fort parce que c'est le seul langage que ces gens-là pouvaient comprendre. Je crois qu'on en a parlé dans d'autres études bibliques pour dire que les guerres d'Israël sont des guerres de miséricorde parce que à travers les guerres d'Israël, un petit peuple qui arrivait à vaincre des grands peuples, Dieu voulait se faire connaître de ces grands peuples. Comme il y avait l'orgueil des nations, il y a l'orgueil des cultures. Le seul langage que ces gens-là pouvaient comprendre, c'était le langage de la défaite. Donc même les guerres d'Israël étaient des actes de miséricorde de Dieu.
Oui, pasteur. Moi, j'ai du mal à comprendre, un petit peu comme le frère, dans les mauvais moments, dans les mauvais côtés. Tu dis que quand même il y a la souffrance, c'est la miséricorde de Dieu. Alors, est-ce qu'on doit dissocier la miséricorde de Dieu parce que Dieu... Et miséricordieux, c'est un attribut qu'il a, et de toute façon, il n'y a pas de mal en lui, donc il est toujours bon. Mais est-ce qu'on le prend comme ça, ou alors, même dans les difficultés, malgré tout, miséricorde se manifeste?
Le but de ce psaume, c'est de nous montrer que dans tous les actes de providence de Dieu, sa miséricorde est dedans. Sinon, on ne ferait pas ce psaume, sinon on resterait sur Dieu est bon, on reste comme ça. Mais là, on nous cite les actes, hein, que ce soit les grands, que ce soit les petits, que ce soit la vie quotidienne, car il donne la nourriture à toute chair. On nous dit que c'est le fruit de sa miséricorde, car sa miséricorde dure toujours. Il nous délivra. Bon, il y a des actes de délivrance, car sa miséricorde dure à toujours. Donc ça reste des actes de miséricorde.
Oui, mais tout à l'heure, tu as rajouté que même dans la souffrance, donc on doit dire car sa miséricorde dure à toujours.
Oui, mais c'est écrit là. C'est écrit.
Bon, j'arrive pas à lire, mais...
Oui, c'est écrit. Quand il frappa des grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. C'est dans sa miséricorde toujours. Mais d'ailleurs, il y a d'autres textes qui le disent bien, que quand tu nous châties, c'est pour nos biens, notre bien. Il y a d'autres textes qui le disent. C'est toujours dans sa miséricorde.
Ok, mais
nos souffrances.
Je comprends le châtiment, d'accord. Mais la souffrance du chrétien, si...
C'est la miséricorde de Dieu.
Bah alors pourquoi ?
Parce que sans cette souffrance, le chrétien deviendrait orgueilleux et se rebellerait contre Dieu. Donc Dieu permet cette souffrance, comme ça nous devenons humbles. On peut lire rapidement, peut-être ancien, dans Deutéronome 8. Dans Deutéronome 8, on en parle. Hein. Dernièrement, on a même donné un sujet de... une pensée du jour là-dessus. Dans Deutéronome 8, je crois à partir du verset 10. Hein. Non, c'était pas... D'accord, ok, je te laisse alors. Oui, c'est ça. C'est toi.
Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel.
Voilà. Donc, il t'a humilié, il t'a fait souffrir dans un but positif, c'est que tu connaisses Dieu, que tu dépendes de lui, parce que dépendre de lui, c'est ça la réussite, c'est ça le bonheur. Voilà. Donc, il y a un but toujours dedans, derrière ces souffrances. C'est pourquoi c'est écrit « Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, tout a pour finalité le bien. Donc, c'est ça la miséricorde. Donc, pensez le bien toujours. Donc, même quand il frappe, il pense le bien. Parce que il ne faut pas prendre Dieu comme tout-puissant dans certaines choses et tout-puissant et bon dans d'autres. Non, il est toujours tout-puissant et bon dans tout. Tout-puissant et miséricordieux dans tout. C'est ça le but de ce psaume. Donc quand il fait ces merveilles-là, c'est toujours dans un but de faire du bien, car sa miséricorde dure à toujours. Oui. Ok, d'accord. Donc, les choses sont citées. Il est écrit, celui qui a fait les grands luminaires, donc la création, c'est tout est toujours dans une logique de miséricorde. Et il a frappé les Égyptiens dans leur premier-né. C'était aujourd'hui toujours sa miséricorde, car sans ça, ils n'allaient pas voir qui est le véritable Dieu, le grand Dieu. Et ce n'est pas la seule nation qui a subi ça, même Israël. Parce que certains vont dire, mais là, c'est les Égyptiens. Mais oui, mais Israël aussi a subi cela. À chaque fois qu'Israël commettait les péchés, il était frappé, et même parfois plus que les nations païennes. Donc ça, et toujours là, c'est la miséricorde de Dieu qui veut montrer ce qui est bon et ce qui est mauvais, parce que ce qui est mauvais finira mal. Donc il faut qu'il frappe pour montrer que le mal est mal. C'est toujours sa miséricorde. Oui.
À travers les guerres qu'il peut y avoir, par exemple, quand Israël, quand Dieu se glorifie à travers le peuple d'Israël face à des grandes armées, qu'est-ce qu'il en est des humains qui périssent dans ces camps adverses, en fait ? Ceux qui meurent, alors que Dieu manifeste sa miséricorde, il y a quand même des humains qui meurent. Quel est leur sort à eux par rapport au jugement, en fait ?
Ils subiront leur jugement. Et donc, en ce moment-là, leur mort est une manifestation de la miséricorde de Dieu qui montre le bien et le mal où ça se trouve pour que les vivants en bénéficient. Mais les morts qui meurent sans changer, c'est des gens qui avaient eu d'autres occasions de s'attacher à Dieu qui ne l'ont pas fait. Voilà. En tout cas, dans tout ça, le but de ce psaume, c'est de nous dire que dans tout, il y a la miséricorde de Dieu. C'est cela. Ce n'est pas toujours facile à voir, mais avec le temps, on finit par voir. Voilà. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne voyais, je ne comprenais pas avant, mais avec le temps, j'ai vu, notamment dans les guerres d'Israël, la miséricorde de Dieu. Parce que quand on fait face à l'orgueil des humains, hein, autour de nous, on se rend compte du fait que frapper les humains, combien ça peut être une grande miséricorde de la part de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ne vont pas du tout comprendre le langage de la douceur, le langage de la paix, de la joie. Il leur faut un langage de défaite dans une guerre pour réaliser qu'ils sont faibles. C'est tout cela, oui.
Oui, il y a des internautes qui interviennent par rapport à ça. Donc il y a un internaute qui nous donne 2 Corinthiens 12, 7 à 10, là où Paul dit, bon, Dieu l'a mis une écharde pour le préserver de l'orgueil. Donc il montre par là la miséricorde de Dieu.
Toujours.
Et l'autre,
mais c'était une grosse souffrance. Hein.
Et l'autre donne donc 1 Jean 3, 12 qui dit bien que Caïn était du diable. Mais Dieu l'a protégé. Le livre de Genèse nous montre que Dieu l'a protégé lorsqu'il le lui a demandé. Et Dieu l'a protégé quand même de la mort.
Oui, donc dans tous les cas, donc le texte que nous avons en face est là pour nous dire, vous devez louer Dieu pour tout. Parce qu'il y a sa miséricorde dans tout ça. Ça nous exhorte à la louange. Je comprends maintenant quand on dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Donc, dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui bouge, dans tout ce qui se passe, il y a la miséricorde de Dieu dedans. Maintenant, elle n'est pas toujours visible au cerveau rationnel de prime abord, mais en voyant la liste des choses qui sont énumérées là, on peut en conclure que dans tout, il y a la miséricorde de Dieu, que je vois ou pas. Voilà. Est-ce que tu peux utiliser le micro en face comme ça?
Voilà. Est-ce qu'un chrétien il peut mourir dans la maladie ou Dieu va le
guérir? Oui, il y a des chrétiens qui peuvent mourir dans la maladie. Élisée est mort, un serviteur de Dieu, il est mort de maladie. Ok, nous prenons le psaume 137 qui va être notre étude principale. Voilà, psaume 137, c'est le psaume jumeau du psaume 126. Le psaume 137, en réalité, il s'est écrit 137, mais chronologiquement, c'est une histoire qui vient avant le psaume 126. Peut-être qu'il faut qu'on lise le psaume 126 et puis qu'on attaque le psaume 137. Psaume 126.
Psaume 126. Cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs, comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec un chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes.
Voilà, ça c'est le retour du peuple qui a été déporté à Babylone. Ils reviennent. Donc, après les 70 ans donnés par le prophète Jérémie en prophétie, il avait dit qu'ils feront 70 ans et Dieu les ramènera à Sion, donc à Jérusalem. Et là, c'est le psaume 126 qui raconte cette grande joie, ce miracle qui était comme un rêve, le retour à Jérusalem, parce que vous vous rendez compte, 70 ans d'absence, quand on revient, c'est comme un rêve. Finalement, la prophétie du Seigneur s'accomplit. Et le psaume 137 nous parle de l'arrivée, quand ils arrivent maintenant à Babylone. C'est, moi j'intitule ça, l'honneur de Dieu et de sa famille. Psaume 137, on va lire ça.
Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom qui dans la journée de Jérusalem disaient « Rasez, rasez, jusqu'à ses fondements. Fille de Babylone, la dévastée, heureux qui te rend l'appareil. Le mal que tu nous as fait, heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. »
Alors, le psaume 137 nous montre l'arrivée des enfants d'Israël à Babylone. Bien sûr, en vaincu. Et il nous est dit qu'ils étaient assis sur les bords des fleuves de Babylone. Et ils pleuraient en se souvenant de Jérusalem. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Et les vainqueurs, les Babyloniens, disaient, mais allez danser, chantez-nous les chants qu'on a entendus quand on était partis chez vous. Et il est écrit, verset 4, comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Alors, ils disent, comment on va faire des activités consacrées à l'Éternel ailleurs? Vous savez que le Seigneur avait fixé Jérusalem et le temple comme l'endroit où on doit les glorifier, lui rendre le culte. Ils disent, maintenant on est en terre des païens et on va faire le culte de Dieu dans ces territoires étrangers. On ne peut pas, on a l'honneur de notre Dieu. Non. Et ils ne sont pas les premiers, vous vous souvenez de Daniel, quand il arrive à Babylone, dans Daniel, avec ses amis. On leur donne les mets délicats, extraordinaires du palais royal. Ils disent, ben non, puisque c'est des mets qui ont subi des processus qui offensent notre Dieu, nous n'allons pas manger, nous allons faire notre cuisine à part. Pourtant, c'était des mets du roi. Ils ont refusé le mélange parce que leur Dieu avait toujours dit, vous êtes un peuple à part. Que ça veut dire le mot église? Église veut dire appelé hors d'eux. Vous êtes un peuple à part. Et Israël, c'était la même chose. Un peuple à part. Vous n'avez pas à faire les mêmes choses que les autres. Ils ont dit, mais si on commence à chanter les choses de Dieu ici, parce que eux, Israël, n'avaient de chant que pour Dieu. Mais ils disent, mais nous n'allons pas chanter les cantiques de l'Éternel ici, dans une terre étrangère. Non! Lui doit être célébré à Jérusalem. C'est pourquoi il pleurait, il disait, mais notre Dieu, comment on peut te célébrer? Alors ils disent, malgré le fait qu'on est ici, on refuse d'oublier Jérusalem. Ça va rester ancré en nous jusqu'à ce qu'on y retourne et on rendra gloire à Dieu dans le temple là-bas. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui? Jérusalem représente la vérité, représente Dieu. À l'époque, Dieu avait choisi clairement cette ville-là, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est le Jérusalem, comme un point terrestre important pour lui. Et il avait demandé à ce que le temple y soit bâti et qu'on lui rende culte que dans le temple. C'est pourquoi tout ce qui se fait dans les synagogues, c'est nul et sans effet comme culte. Après, il y a des lectures de la parole, c'est bien. Mais ce culte-là, c'est nul et sans effet, puisque le culte devait se dérouler à Jérusalem dans le temple. Le culte, l'adoration de l'Éternel. Maintenant, pour nous, c'est quoi aujourd'hui? C'est que nous avons été envoyés du ciel. On est dans une sorte de captivité ici, sur terre. Nous sommes des étrangers ici sur terre, comme Daniel et ses amis étaient étrangers à Babylone, comme on le voit ici. Ils étaient des étrangers. Ils disent, nous n'allons pas faire en mélange avec les gens du monde les choses de Dieu. Les choses de Dieu doivent se faire dans la sainteté, dans la communion avec les autres enfants de Dieu. On ne va pas faire de mélange. Et on ne doit pas oublier la vérité de Dieu. Jérusalem symbolise la volonté de Dieu, la vérité de Dieu. On ne peut pas oublier ça, la manière dont Dieu veut qu'on l'adore. Comment Dieu veut qu'on l'adore? Parce que là-bas, avant, c'était Jérusalem, avec une certaine liste de procédures. Mais après, qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 4? Comment Dieu doit être adoré? En esprit, en vérité. Donc, notre Jérusalem, c'est quoi? C'est en esprit et en vérité. Bien-aimés, il y a l'honneur de leur Dieu. Même si nous venons en vaincu à Babylone, nous nous souvenons que notre Dieu est un vainqueur. Il est le grand vainqueur. Donc nous n'allons pas nous comporter en vaincu, même si en apparence on est vaincu, mais en réalité on n'est pas de vaincu. Donc on ne va pas se comporter en vaincu et commencer à danser pour nos vainqueurs. Non. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'Église. D'ailleurs, il y aura une émission vendredi à 14h, là-dessus, l'Église aveuglée, deuxième partie, les pratiques anti-bibliques actuelles. Mais on avait fait déjà la première partie consacrée à la musique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui se disent chrétiens, ils se permettent de faire des featuring, c'est-à-dire chanter avec les musiciens du monde, chanter, de faire des choses ensemble. Les gens qui se disent chrétiens, ils se permettent de faire du marketing dans l'Église. Au fait, ils sont en train de faire le contraire de ce que ces gens disent. Ils disent, ces gens-là ont dit, nous, on ne va jamais oublier Jérusalem. Les vrais chrétiens disent aussi, on ne va jamais oublier la vérité. On ne va jamais oublier l'Esprit de Dieu. On ne va jamais oublier le fait que notre Dieu est plus grand. Voilà. Vous voulez nous convaincre qu'on doit faire de l'écuménisme. Les gens disent, les vrais chrétiens disent, non, on n'a pas besoin de l'écuménisme pour progresser. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, on n'a pas besoin de s'habiller comme la racaille pour toucher les jeunes. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que tous les jeunes sont de la racaille, alors. C'est faux. Il y a des jeunes qui sont corrects. Pourquoi vouloir faire de tous les jeunes des voyous? Et même si tous c'était des voyous, on va changer un voyou en ressemblant à un voyou. Ça veut dire quoi? C'est comme si le médecin, il doit tomber malade pour guérir un malade. Vous avez déjà vu un médecin vouloir tomber malade pour guérir quelqu'un d'autre? S'il tombe malade, comment il va guérir les autres? Parce qu'il sera indisponible. Aujourd'hui, les vrais chrétiens disent non, notre Dieu est le plus grand. Je n'ai pas besoin de faire du rap chrétien pour toucher des jeunes. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit pour toucher les jeunes. Je n'ai pas besoin de faire du rock chrétien pour toucher les jeunes. Je n'ai pas besoin de brandir les miracles pour toucher les gens. Il est écrit dans Zacharie 4:6, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais c'est par mon esprit. Nous ferons les miracles, mais ce n'est pas parce que c'est incontournable. Non, nous ferons les miracles parce que notre Dieu est tout-puissant et il est bon. Mais on sait que c'est l'esprit qui touche le cœur. Ce ne sont pas les miracles. Les miracles peuvent attirer, peuvent montrer la grandeur de Dieu et attirer une certaine louange à sa faveur. Mais la conversion vient de la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Naître d'eau et d'esprit. Nous refusons les méthodes humaines qui consistent à flatter les gens par des fausses prophéties en disant tu seras grand, tu auras un grand ministère, tu auras ceci. Et comme ça, les gens vont venir. Non, ça c'est le monde, c'est Babylone. Nous refusons ça. Nous refusons d'investir dans une salle dans le but de toucher les gens. Non, on veut une salle pour louer Dieu. Pas pour la faire tellement belle que ça attire. Non, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est le Babylone. Nous, on a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Il y a un manque grave de la puissance du Saint-Esprit à notre époque. Ce qui fait que, ou bien c'est l'inverse qui a fait ça, mais c'est le processus inverse. C'est le fait que les gens aient dévié que la puissance du Saint-Esprit est partie. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a un déficit grave de la puissance du Saint-Esprit De sorte que les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils chantent, ils font les choses de Dieu avec les moyens du monde. Et ils disent aux gens du monde, venez à nous. Comme, venez à vous qui? Vous êtes aussi dans le monde. Quand Jésus dit, venez à moi, lui en ce moment-là, lui il n'est pas corrompu. Il brille de la sainteté, de la vérité, de la gloire de Dieu. Mais nous, on va dire au monde, venez à nous. Mais venez à vous qui, mais vous faites des featuring avec les gens du monde. Vous vous maquillez comme les gens du monde. Vous voulez imiter la musique du monde. Non. Les juifs de cette époque-là, ils ont dit non. Nous refusons. Et on a un texte dans Daniel qui dit aussi la même chose. Ils ont dit non. On ne va pas manger les mets du roi. On a un texte dans le livre d'Esther où Mardoché dit non, je ne vais pas me prosterner devant Aman. Voilà. Aujourd'hui, les chrétiens, ils se sont prosternés devant le monde. Ah, bien oui, vous savez, pour faire telle manifestation, il faut se mettre ensemble avec le catholicisme. Comme ça, l'État va vous faciliter les choses. Non, on n'a pas besoin de faire des compromis, de fléchir le genou devant le monde pour faire les choses. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours. Dans Matthieu 28, 18 à 20, avant de dire cela, il a dit d'abord, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Et donc, il nous confère le même pouvoir pour faire les choses. On doit revenir à Dieu. Ils ont dit, on ne va jamais oublier Jérusalem. Bien-aimés, que personne ne nous fasse oublier la gloire de Dieu. Que personne ne nous fasse oublier la sainteté, la vérité. Que personne ne nous fasse oublier sous prétexte qu'on est dans le monde, donc on doit faire comme... Non. Pour toucher les voyous, il faut jouer aux voyous. Ce n'est écrit nulle part. Maintenant, leur argument souvent, c'est « Oui, mais dites-nous alors, quelle est la musique chrétienne ?» Non, il n'y a pas de musique chrétienne. Il y a faire les choses selon Dieu, c'est tout. Faire les choses dans la simplicité biblique selon Dieu. Il n'y a pas de musique attitrée chrétienne, non. Parce que quelqu'un peut faire aussi, entre guillemets, du gospel, mais il fait ça à la manière du monde. Ce n'est pas ça le problème. Il n'y a pas une musique chrétienne. Il y a la manière de faire. Vous savez, l'église, ça s'appelle appeler hors d'eux. Donc, c'est des gens appelés hors du monde. Dernièrement, on m'a montré même moi, j'ai dit que c'est des voyous. Ils se disent chrétiens, mais c'est des voyous. Ils sont en cagoule, en train de chanter Jésus. Le cagoule des gens qui braquent les banques. Comme a dit quelqu'un en commentaire, il ne vous restera plus qu'à tuer pour la gloire de Jésus. Parce que l'argument qui revient, l'essentiel, on fait pour la gloire de Jésus. Non, ce n'est pas pour la gloire de Jésus. Donc un jour, vous allez braquer une banque, vous allez dire, pour se faire connaître, pour faire connaître Jésus. Non. Donc quand on fait les choses de Dieu, vous savez que même parmi les païens, entre païens, que tu te retrouves avec des cagoules en train de chanter, ils vont avoir peur de toi, les païens entre eux. Et maintenant, vous voulez chanter pour Dieu avec des cagoules. Sortez de cet état de voyou, convertissez-vous à Jésus. Ce que vous faites là, c'est du mensonge. C'est le moment de vous repentir, de revenir à la vérité. Vous allez voir Jésus avec une cagoule. Eh bien, mais il y a cagoule et cagoule, avec des grosses ouvertures aux yeux qui font peur. Et ils disent que c'est... Ils mettent quelques paroles de Dieu dedans, quoi. Mais non, ça c'est Babylone.